Bonjour à tous.
Non, non, mais vas-y. Mais non, mais... Voilà.
Il va s'auto-présenter.
Je vais m'auto-présenter.
Est-ce que je dis que tu es d'origine argentine?
Je dirais aussi.
Tu le diras aussi. Est-ce que je dis qu'on se connaît depuis longtemps?
On se connaît depuis très longtemps même.
Tu travailles au groupe de recherche musicale de l'UMA, donc les questions dont on a parlé ce matin, dont il est directeur actuel, et il travaille aussi à l'INA. Il a été directeur de la recherche et actuellement...
Il est toujours.
Toujours ?
Directeur de la recherche. Non, j'ai laissé tomber le directeur adjoint. Ça...
Ah, c'était en plus ?
Ah oui, oui.
Bon, ça, donc c'est une notion de... Et
il va se présenter. Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, je parle, vous posez des questions, s'il vous plaît, et demain, c'est vous qui parlez, c'est ça ? Je suis ravi de ça. Je vous raconterai que j'ai eu quelques expériences par le passé, mais bon. Voilà, donc je commence par moi. Compositeur de musique acousmatique, électroacoustique, instrumentale, voilà. Ça dépend du contexte, je peux changer la dénomination de ce que j'ai fait, mais en tout cas, bon, mon grand amour, c'est la musique acousmatique. Vous savez ce que c'est. Très bien, j'aime bien l'air... instrumental, quand je dis instrumental, c'est jamais instrumental seul, c'est toujours avec un environnement électroacoustique. Donc c'est pour ça que, voilà. Donc, ma position actuelle, c'est directeur de la recherche à l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans cette direction de la recherche, il y a le groupe de recherche musicale, dont je suis le directeur également. Je travaille beaucoup avec Paris 4. Et puis, j'ai beaucoup travaillé dans des projets européens. Je vais revenir là-dessus un petit peu. Voilà, je offre deux visages de moi. Le compositeur sérieux avec ses partitions à la main. Et le type qui aime rigoler, jouer, faire de conneries. Et vous voyez la complexité de mes origines. Pas que je sois schizophrène, mais bon. Il y a de quoi s'inquiéter. En tout cas, mon nom est italien. Donc c'est des Italiens qui sont allés en Argentine à la fin du 19e, c'est des Français qui sont allés en Argentine à la fin du 19e, des Allemands qui sont passés par les États-Unis, sont arrivés au début du 20e, et depuis de l'Angleterre, et puis mes deux grands-parents américains étaient, mes deux grands-parents maternels, pardon, étaient des États-Unis. Et il était allé essayer, non, lui il était astronome. Il avait trouvé un travail en Argentine, il était là-bas, il est resté toute sa vie. Donc, pour continuer une tradition comme ça de pèlerinage familial, depuis 1977, je suis en France. Et j'avais 25 ans, j'en ai 62 maintenant, donc j'ai passé plus de temps en France qu'en Argentine. Et pour ne pas déroger à la règle, je suis marié, j'ai trois enfants. Et il y en a un à Berlin, l'autre au Venezuela et l'autre en Argentine. Voilà, on a instauré cette idée qu'il y en a un musicien, hein, quand même. Donc il faut garder une certaine continuité. Alors, voici un peu les différents domaines dans lesquels je travaille. En haut à gauche, c'est une petite page d'un outil qui s'appelle l'acousmographe, qui est un outil de représentation des musiques et des sons. En bas, c'est le fleuron du GRM, les GRM Tools, et en haut à droite, voilà ce qui est fait, je vous expliquerai un peu plus, le travail quotidien d'un institut comme l'INA. C'est la sauvegarde du patrimoine audiovisuel français depuis ses débuts, et dans ce patrimoine, il peut y avoir des objets comme celui-là, c'est le soulier de satin de Claudel, un enregistrement, donc voilà. Comment est-ce qu'on fait pour extraire le peu d'informations, mais quand même de l'information qu'on pourrait extraire de cet outil. Et donc tout ça rentre dans le dernier chapitre, préservation audiovisuelle et musicale. Donc je me suis beaucoup intéressé, et c'est le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, sur comment conserver les musiques que nous faisons. Et je l'ai choisi exprès par rapport à votre activité parce que je pense que les problématiques sont exactement les mêmes. Et donc, c'est intéressant d'échanger aussi avec vous là-dessus. Voilà, le GRM, c'est quoi ? Groupe fondé en 1948 par Schaeffer. Vous avez entendu parler de Schaeffer ? Non, mais je peux tester. Et puis, au départ, ça s'appelait groupe de recherche en musique concrète. À partir de 1958, Schaeffer a voulu élargir la problématique à d'autres domaines musicaux. Donc, il a créé le groupe de recherche musicale. Les recherches sont plurielles et les musiques sont nombreuses. Et il a non seulement fait ça, mais il a, parallèlement ou un petit peu après, le GRM a créé quelque chose qui s'appelait le service de la recherche, qui essayait, dans un contexte de radio-télévision publique, de faire de la recherche sur plusieurs domaines autour de la création. Recherche musicale, recherche image, recherche technologique, très présente dans notre activité, et puis la recherche d'outils critiques pour aborder tout ça. Donc on passe notre temps à célébrer des anniversaires, le 50e en 2008, ça va être... c'était le 55e l'année dernière, etc. Et en 2010, on a fait un grand événement, c'est pour ça que je le marque autour de Pierre Schaeffer, qui était un séminaire de 3 jours autour de ça, son œuvre. Donc, pionnier dans l'art médiatique, la musique concrète, mais aujourd'hui, on dit acousmatique, électroacoustique, mixte, c'est le domaine dans lequel nous travaillons. 15 personnes, environ 25 compositeurs qui passent par nos studios tous les ans, 26 concerts par saison avec l'Acousmonium, 80 heures de radio par an, CD, web radio, frise thématique, recherche, industrialisation d'outils, gérant tous acousmographes, et puis un patrimoine assez riche de 1800 heures, 5000 heures de programme radio qui s'est constitué depuis les débuts. Et que moi, j'en dis pas plus. Donc ça c'est le GRM. Le GRM se trouve au sein de l'INA. Et regardez, il est tout en bas à droite. 15, c'est le nombre de personnes qui travaillent, en me comptant moi-même. Donc l'INA, je vais expliquer dans un instant, mais c'est 600 personnes qui s'occupent de tout ce qui est les archives historiques nationales, le dépôt légal radio-télévision, le dépôt légal d'Internet. Vous voyez, c'est des missions assez fortes. Et puis de la production, du marketing, de développement culturel. Et le secteur dans lequel se trouvent nos activités, recherche, formation, enseignement, expertise. Donc j'étais directeur adjoint de tout ça. Et je n'aimais pas du tout, parce qu'il y avait beaucoup de démarches administratives, l'AFDAS, les centres de formation en alternance, les CFA, centres de formation en alternance, etc. différentes. C'était très bureaucratique. Donc ça a duré 2 ans et demi, et on m'a dit un jour, si je tenais vraiment ce poste, je dis non. Et donc je suis revenu à ma position qui est directeur du département recherche, et au sein duquel je trouve le GRM. Les autres 25 personnes travaillent sur recherche audiovisuelle autour de la radio-télé. J'en dirai rapidement quelque chose, c'est-à-dire comment lire ce disque pourri que vous avez vu tout à l'heure. Parce qu'on a développé une technologie qui permet de lire les disques noirs sans les toucher. Donc, les activités du GRM, voilà, la moitié de nos ressources, disons, humaines et budgétaires, passent dans la production, la composition, les concerts, les programmes radio. On fait ça tous les ans depuis... à peu près avec cette intensité depuis la fin des années 70. Donc... ça fait plus de 30 ans qu'on a ce rythme-là. Cette production est encadrée dans un contrat avec Radio France. Vous avez entendu parler probablement de l'ERTF, qu'à un certain moment, un grand événement s'est passé qui s'appelle l'éclatement de l'ERTF en 1975, où cet énorme conglomérat audiovisuel, il y avait production, archivage, recherche, les chaînes de télé, les chaînes de radio et la télédiffusion, a éclaté, a constitué 7 sociétés différentes, dont 6 avaient très facilement trouvé sans registre. Mm-hmm. Je ne vais pas répéter. 6 avaient trouvé leur raison d'être, les 3 chaînes de télé, la radio, etc. Quand on a tout éclaté, il est tombé un certain nombre de choses qui allaient nulle part, et là, c'est... la dernière action institutionnelle de Schaeffer qui a poussé pour que il y ait un institut qui regroupe toutes ces activités un peu éparses qui étaient restées. Et donc, on a créé l'INA en mettant ensemble les archives, la production expérimentale, l'enseignement, la formation professionnelle, la recherche et le GRM. Et on a fait tout ça, on a essayé de faire ça un institut. Alors, l'image que vous avez vue là, c'est... Là, c'est... Voilà, après beaucoup d'années, on est arrivé à cette répartition en trois grands secteurs. Tout ce qui est l'archivage, tout ce qui est l'exploitation des archives et tout ce qui est associé à l'exploitation, sur la recherche, sur la formation, sur l'enseignement. Et donc, ça, c'est... Alors, dans cette explosion de l'ORTF, le législateur, comme on dit, a dit tout ça est bien fragile, et donc ils ont créé des tas de subventions cachées. C'est-à-dire que dans le budget, de France Télévisions, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais des chaînes publiques, il y avait une partie de ce budget qui devait aller, par exemple, à la SFP pour faire de la production déléguée, ou à l'INA pour faire je ne sais pas quoi. Donc, ils interchangeaient de l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas complètement eu des budgets indépendants, et donc on pouvait faire... il y avait des obligations. Et le GRM était entré là-dedans. C'est-à-dire que Radio France devait... d'une certaine manière, acheter les productions du GRM moyennant un montant annuel qui était versé et qui continue à être versé depuis 35 ans, avec des changements plus haut, plus bas. Maintenant, c'est plus bas, mais c'est très réaliste par rapport à l'effort apporté. Voilà, en ce moment, pour que vous sachiez tout, on est en pleine négociation d'un nouveau contrat qui s'est arrêté fin 2013 et... jeu du hasard ou de l'histoire, le président de l'INA va devenir président de Radio France. Donc, il a négocié d'un côté, maintenant il va changer de côté, il va le négocier de l'autre. On va voir ce que ça nous donne, si ça va être positif ou pas. Après, tout ce qui est recherche, tout le monde signale, représentation, structuration automatique, et puis une grande partie en termes de diversité, numérisation, publication, CD écrite, action éducative, ou enseignement supérieur, où nous sommes lancés dans... En fait, on est dans deux masters, un depuis 15 ans et un autre depuis 5 ans. Je dirai un mot tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se lance dans l'éducation supérieure au niveau master. Voilà, rapidement sur l'INA. Statut public-privé, c'est-à-dire qu'une partie est financée par la redevance et l'autre par les activités commerciales et industrielles. Moi, en tant que responsable de la recherche, j'ai une obligation de ramener des sous pour l'INA à travers des projets de recherche financés nationaux ou internationaux. Donc, une partie de mon boulot, c'est ça. Les missions responsables des archives nationales de radio-télévision, 1,5 million d'heures depuis les débuts, depuis 33 pour la radio et 42 pour la télévision. Et ça fait environ 11 millions de programmes. Et sur ces 1,5 million heures, ça a été un moment d'un grand drame de l'INA. C'était le problème de préservation de sauvegarde. Donc on a commencé en 1999 un grand plan de numérisation qui a déjà numérisé environ 70% du fonds. Donc 1,1 million sont numérisés et accessibles en ligne pour usage professionnel. C'est-à-dire qu'on peut se connecter sur le site si on est reconnu comme utilisateur et on peut visionner n'importe laquelle de ces 1,1 million heures. C'est tellement grand qu'on n'arrive pas à imaginer. J'ai calculé que pour que vous ayez une idée, pour regarder 1 million d'heures de télé, il vous faut 900 ans, 24 heures sur 24. C'est pour donner une idée de la masse. Et puis un système d'information extrêmement complexe pour stocker tout ça et le rendre et le faire durer dans le temps. Et puis il y a un site public qui s'appelle ina.fr dans lequel on peut accéder à 35 000 heures, c'est-à-dire plus de 260 000 documents. Je vous conseille surtout, il y a ce site, il y a toute une partie qui est dédiée aux pubs depuis les débuts de la télé. Il y a environ 130 ou 140 000 pubs. Donc vous prenez Orangina, par exemple, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez suivre l'évolution de... Et tout ce fond est très utilisé soit pour des nouvelles productions, soit pour l'actualité. Toutes les grandes chaînes sont connectées à ce site Inamedia Pro. Donc quand il y a la mort de quelqu'un, au bout de, on envoie quelqu'un chercher et faire venir les images pour montrer un tel quand il était vivant. Beaucoup de choses sont faites aussi au niveau de la production, créer de nouveaux programmes à partir de programmes d'archives, c'est une tendance très forte. Alors, est-ce que je dois... tout ça est cadré par la loi. Donc, la loi a dit d'abord que tout ce qui était le fonds ORTF, qui était le seul fonds français en 75, tout ça est entré dans l'actif de l'INA, et qu'à partir de 75, l'INA archivait tout ce qui était produit par les chaînes nationales, radio, télé. En fur et à mesure de l'évolution de la télé, bon, d'une part, il y a TF1 qui a cessé d'être public pour devenir privé en 86. Donc en 86, on a dit on arrête d'archiver TF1. Et ensuite, les chaînes ont changé leur mode de production. Avant, la télévision, dans les chaînes, on faisait tout. Maintenant, les chaînes en font très peu. C'est-à-dire que beaucoup de productions sont sous-traitées, sont faites par des prestataires extérieurs. Donc la loi aujourd'hui dit que revient à l'INA tout ce qui est produit à l'interne des chaînes, c'est-à-dire l'information, les news, les sports et une bonne partie des divertissements. Donc ça c'est le fond de télévision et radio, c'est la plupart, c'est tout France Culture en tout cas, c'est France Musique moins les concerts. Parce que les concerts, il y a eu beaucoup de discussions, on a décidé que c'était le patrimoine artistique de la radio, il y avait beaucoup de réutilisations et d'utilisation commerciale, donc ça restait au sein de Radio France. Donc ça, cette réduction a eu lieu dans les années 90, elle n'a pas bougé depuis, et aujourd'hui, par exemple, elle évolue dans un autre sens, parce qu'il y a de plus en plus de la radio avec images. C'est-à-dire des émissions captées avec une captation très primaire. Et donc maintenant, avec le nouvel accord qu'on a eu avec Radio France pour l'archivage, on récupère toutes ces images. Alors, il y a une phrase que j'ai laissé passer là. Où est-ce qu'elle est ? Dont l'INA détient les droits de producteur. C'est-à-dire que l'INA n'est pas comme la BNF, n'est pas comme le dépôt légal. Dans le dépôt légal, vous devez envoyer, vous publiez un livre, vous l'envoyez à la BNF. La BNF a la mission de le conserver sans aucune possibilité d'utilisation commerciale. Nous, on récupère les droits de producteur pour notre fonds d'archives. C'est-à-dire que c'était produit par France Télévisions. Au bout d'un an, le producteur s'appelle INA. Les chaînes n'ont jamais été extrêmement ravies par ça, au départ, mais quand ils retrouvent, sans aucun effort, leur contenu 30 ans après, ils sont très contents. Et même, par exemple, TF1, qui avait arrêté, dont l'INA avait arrêté l'archivage en 86, est revenu en 2006, en disant, nous, on ne sait pas faire ce métier, voulez-vous le faire pour nous ? Donc là... Ce n'est pas dans notre mission de patrimonial, c'est plutôt un service nouveau qu'on va ouvrir envers TF1 qui consiste à stocker, à numériser et à vendre, parce qu'on sait très bien vendre nos contenus. Donc il y a aussi le dépôt légal de la radio et de la télévision. Ça, c'est un truc magnifique à voir, parce que ça implique enregistrer en permanence tous les jours de l'an 24 heures, 100 chaînes de télé et 20 réseaux radio. Ça se fait tout seul. Des machines, des robots, tout ça, tac, 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 tac. Et ensuite, il y a toute une procédure de vérification. Il y a tout un travail de documentation. C'est-à-dire, la documentation primaire consiste à dire j'ai enregistré la journée du 20 novembre et j'ai ça sur un disque dur ou sur un DVD, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est la documentation primaire, mais ça peut aller beaucoup plus loin d'écrire avec détail ce qu'il y a au sein de l'émission. Donc, ça fait 1 million d'heures nouvelles par an. Donc, il faut stocker, copier, etc., etc. Et tout ça, alors là, par contre, c'est dépôt légal, aucune utilisation commerciale. C'est pour les chercheurs qui vont au site de la Bibliothèque nationale. Il y a un truc qui s'appelle l'INATEC. Et là, ils vont consulter le fond, ce qu'ils veulent, l'accès à tout ce qui est produit. Et aucune chaîne peut s'opposer, parce que c'est une obligation légale, comme les éditeurs doivent envoyer leurs 5 copies à la BNF pour ça. Donc, 12 personnes seulement font marcher ça. C'est vraiment très léger, mais il y a quand même 140 documentalistes derrière. Des gens qui vont ajouter de l'information, qui vont parfois, surtout pour des programmes comme les JT, sont décrits très minutieusement. Voilà. Et depuis 2010, on s'est lancé dans l'archivage du web. Encore une de ces tâches qui paraissent infinies, c'est dans le web français, identifier tous les sites qui ont à voir avec la communication. Donc, on va voir TF1 par exemple. On capte le site, on enregistre tous les, on télécharge tous les fichiers. S'ils font du live, on enregistre le live. On fait la même chose que pour la télé. Et on revient à ces sites régulièrement. On a des sortes de robots qui vont chercher et qui vont dire ça a changé, donc il faut rajouter telle ou telle page. Oui.
Même si c'est les mêmes éditions, c'est-à-dire aussi.
Tout ça est basé sur un principe fort simple. Et bête, c'est moins cher de tout garder que d'essayer de choisir et sélectionner et éliminer, vu le coût de la technologie aujourd'hui. Donc c'est ça le principe. Et même s'il y a des redondances effectivement entre le site réel et le site web. Ensuite, toute la partie recherche, formation professionnelle, enseignement supérieur. Donc on a un certain nombre de masters. Et là, le GRM est concerné par deux masters. Un master qu'on fait avec Paris 1. Paris 1, c'est la grande université française de la musicologie. Donc il y a 15 ans, on a eu une intéressante conversation avec les responsables de l'époque, en disant que bon, les musicologues qui sortaient de Paris 1 étaient très bons à analyser du Mozart, du Bach et du Debussy, mais qu'après, quand on rentrait dans la contemporanéité, non seulement il n'y avait pas de professeurs, mais il n'y avait surtout pas d'outils. Et donc, depuis 1997, on a commencé à accueillir tous les ans les étudiants du Master 1, pour leur faire une sorte de, on appelle ça plutôt un atelier pendant un semestre, où ils doivent d'une part composer une œuvre électroacoustique. Donc l'important, ce n'est pas le résultat musical, c'est la démarche, qu'ils comprennent quelle est la démarche. Et puis avec l'acousmographe, ils doivent réaliser une analyse d'une œuvre qu'on leur pose plus ou moins. On propose 2-3 œuvres et choisissent. Donc ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on a un master dans lequel on s'est associé avec l'Université de Marne-la-Vallée, l'université a un master qui s'appelle Musique et Informatique. Et dans ce master, nous assurons ce qu'on appelle un parcours, c'est-à-dire qu'un tiers des cours sont dédiés à l'acousmatique et aux arts sonores. Ça se passe sur 2 ans. C'est extrêmement bien organisé parce que les cours se concentrent sur 2 jours, parce qu'on avait la perspective que ce master soit en alternance, c'est-à-dire que les étudiants puissent étudier et travailler en même temps avec un salaire dans l'institution d'accueil ou l'entreprise d'accueil. Et pour nous, c'est idéal parce qu'on n'a pas assuré toutes les matières, disons, fondamentales qu'il y a dans le master, comme je sais pas, l'histoire de la musique du XXe siècle, l'acoustique, le traitement du signal, l'anglais, comment faire une recherche, tout ça. Et nous, on s'occupe de... On va à la création, à l'analyse, c'est nos objets principaux. On fait création musicale, création radiophonique, un peu d'art plastique, et puis beaucoup, beaucoup d'analyses, surtout des travaux que font les étudiants. C'est-à-dire, on fonde beaucoup notre activité sur le développement des capacités de, je dirais, auto-analyse. C'est-à-dire comprendre ce qu'on fait et pouvoir développer des jugements, des critères par rapport à ça. Donc, c'est 12 étudiants tous les ans. Le master est très, très bien équipé en termes technologiques. Voilà. On travaille beaucoup en stéréo, en multiphonie, un certain nombre de choses. Alors, mon secteur aussi travaille sur beaucoup de projets de recherche européens, des projets qui s'appellent Presto, etc. C'est des projets qui visent à améliorer la technologie liée à la préservation des œuvres audiovisuelles, des contenus audiovisuels. Parce que c'était très sympathique tout à l'heure quand j'ai dit qu'on avait 1,5 million d'heures et on avait numérisé 1,1 million. La question c'est comment avez-vous fait ? Puisque dans ces 1,5 million, il y avait les formats les plus divers et dont non seulement il y a un problème de dégradation des supports eux-mêmes, mais on ne trouve plus la machine pour lire. Alors là, on est vraiment fichu. Le premier format vidéo, qui est le format 2 pouces, c'est des bandes de cette largeur-là, mais ils doivent rester une trentaine de machines dans le monde, actives et en état de marche. Donc ça les arrache à prix d'or. Donc c'était trouver des technologies de substitution pour lire ces bandes-là. Et puis, un autre grand problème, quand vous avez 1,5 million d'heures, c'est, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a dans ce 1,5 million d'heures ? Donc, il y a tout ce qu'il y a autour, ça s'appelle la documentation. La documentation est faite par des documentalistes qui font ça à merveille. Mais il se fait que, par exemple, sur le fond radio qui a 600 000 heures, il y a environ 200 000 qui ne sont pas documentés. Parce qu'on les a hérités sans documentation. Alors, il est hors de question de mettre quelqu'un à documenter ces heures-là. Ce serait trop cher, ça prendrait trop de temps. Donc, on utilise des approches technologiques pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces bandes magnétiques. Est-ce qu'il y a de la musique déjà ? Est-ce qu'il y a de la parole ? Si est-ce qu'il y a de la parole, de quoi ça parle ? Est-ce qu'on peut les segmenter, etc., etc. Des technologies, justement, d'extraction d'informations pour la documentation. Et puis, la dernière tendance... C'est de dire, au fond, le problème n'est pas tellement de documenter, mais de trouver. Donc, je cherche, c'est pas une image, pas du général de Gaulle parce qu'on en a trop, mais d'une personnalité, d'Artaud. Est-ce qu'on en a ? Alors, on va aller chercher les fiches, on n'en trouve pas. Mais on peut lancer des processus qui vont analyser à partir d'une photo d'Artaud et dire, tiens, il y a là, il y a des candidats à être des photos d'Artaud. Donc voici les résultats, est-ce que ça vous plaît ou pas. Donc il y a une problématique qui est de documenter et une autre problématique bien plus intéressante, à mon avis, c'est celle de trouver même des choses qu'on ne sait pas qui existent. Je suis en train d'être un peu long dans tout ça, production de musique expérimentale. L'INE est en charge de la formation professionnelle. 300 000 personnes par an, 400 stages dans tous les domaines de l'audiovisuel. Ça peut être depuis l'écriture de scénarios, à la production d'émissions radio, à être speaker radio, tout ce qui concerne l'audiovisuel, c'est bien au-delà de tout ce qui est l'archivage. Et puis, production à base d'archives, environ 50 programmes par an, produits ou coproduits. Bon, ça y est, j'ai fini avec l'institutionnel, comme on dit, le personnel, l'institutionnel, au pas ce sujet. Quelques petites images, déjà. Oui.
Dans les activités que tu as présentées du groupe de recherche musicale, tu peux préciser ce qu'on entend par structuration automatique ?
Ça, c'est un travail qui intéresse aussi beaucoup l'INA, qui consiste à dire... on a commencé par une approche qui était similaire à la recherche de mots dans un texte. Vous avez dans Word, vous faites rechercher, vous écrivez le mot et vous trouvez toutes les occurrences de ce mot. Et on s'est dit d'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même chose? Donc j'ai dit, tiens, prends ce son-là, est-ce qu'il y en a d'autres au sein de ce document? Je ne parle même pas musique. Je sais que dans la musique, il y a beaucoup de récurrences. Et tout de suite, le problème est devenu beaucoup plus complexe parce qu'il faut gérer la variation. Je vais trouver un son similaire. Alors, l'identité, les machines savent chercher ça à la perfection. La similarité est un processus beaucoup plus complexe qui met en place des réseaux de neurones bien plus différents que celles de l'identité. Par exemple, un son à l'endroit, un son à l'envers, et quelque part le même son, avec une variante. Plus haut, plus bas, plus court, plus long, c'est des variantes toujours du même son. C'est-à-dire notre oreille est capable, si on lui dit, bon, mettez tous les sons qui se ressemblent, on va les mettre tous dans une catégorie. Donc, est-ce qu'on peut apprendre une machine à faire ça? Et c'est pas très loin des technologies de reconnaissance à la parole, de transcription automatique, mais qui partent sur d'autres principes. Donc, l'idée là, c'était d'isoler un son et dire, cherche-moi, marque-moi où sont tous les sons équivalents de ça. Donc, faire une recherche là-dessus, ça veut dire s'associer avec une université, trouver quelqu'un qui soit expert du point de vue mathématique de la problématique et lancer un doctorant qui va travailler sur 3 ans là-dessus. Donc, on a eu des résultats plutôt encourageants et on avait fait un outil qui permettait justement d'aller pointer. Et puis, on a dit, mais on pourrait peut-être aborder la problématique d'un point de vue beaucoup plus souple. Au lieu de dire voici ce son, trouve-moi des sons similaires, dis-moi tout ce qui est similaire au sein de ce document. C'est de l'analyse de différents facteurs. Bon, il y a le spectre, la durée, la hauteur, mais bon, la densité, un certain nombre de critères, tous les plus acoustiques les uns que les autres. Mais tu sors avec une sorte de cartographie des récurrences au sein d'un document sonore. Et après, au-dessus de ça, on rajoutait un autre niveau qui consistait à dire, tiens, il y a le son 1, le son 2, le son 3, et on le retrouve ici, 1, 2 et 3. Tiens, on est devant une structure similaire. Donc, est-ce qu'on peut, à partir d'identification de... C'est là où on a beaucoup de problèmes et sémantiques et sémiologiques. Parce que c'est quoi un son? Surtout que dans nos musiques, on a le concept de son objet est très rare. On a parfois des choses très longues, puis se superposent. Bon, on est parti du principe « débrouille-toi comme tu peux ». Et en général, ça arrive à identifier des moments importants et arriver à des... Voilà, ici, A, B, C, D, E, se retrouve ici, ou avec une petite variation... Donc, créer des zones qui ont des ressemblances fortes au niveau des contenus. Alors, quelques petites images à gauche. C'est quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'acousmonium. L'acousmonium est l'outil qu'on a inventé pour, comment dire, mettre en scène la musique. C'est clair que je peux mettre des affiches dans tout Bourges disant ce soir grand concert à l'École nationale, concert Coquini Terugi, voilà, venez nombreux, etc. Et les gens arrivent, il y a deux haut-parleurs, des sièges, je dis putain, j'ai payé pour ça. Je me suis fait flouer. Comme l'être humain a besoin du spectacle, l'idée c'est de lui donner du spectacle à voir et surtout à entendre. À l'époque, quand les premières salles, les multicinémas sont apparues, on arrivait dans des salles qui étaient un quart de cette pièce, avec un écran comme ça pour voir un film. On avait payé 10 euros pour ça. Et c'était presque aussi mauvais que la télé à la maison. Donc, pour faire ça, on a créé tout un instrumentarium, c'est-à-dire tout un choix de haut-parleurs. On a environ presque une centaine de haut-parleurs différents. Et en fonction des concerts, on les configure d'une manière ou d'une autre. Et on crée une installation, d'une part spatiale, c'est-à-dire que toute la salle est recouverte, pour ainsi dire, de haut-parleurs. Et par ailleurs, un travail de lumière pour, sans fin, c'est pas du son et lumière. C'est-à-dire que chaque œuvre, ou mouvement d'une œuvre, a un contexte lumineux dans lequel l'auditeur va écouter. Et cette situation luminique va le contraindre à une certaine concentration d'écoute, en opposition à quand on allume tout pour voir qui est à côté. En bas à droite, c'est une image d'un concert. Bon, là, elle est vraiment très petite. Là, ce truc blanc que vous voyez là, c'est Pierre-Henri. C'est un concert Pierre-Henri. Alors, j'aime beaucoup cette photo, pas pour montrer que notre public est très nombreux, mais pour dire que, sauf ce monsieur-là qui me gâche un peu la photo, mais il faut qu'il soit là aussi, on voit très peu de cheveux blancs. Et on voit beaucoup de cheveux de toutes les couleurs, y compris un gamin qui est là. Donc, je dis ça rétrospectivement parce qu'il y a une quinzaine d'années, en 2002, j'étais un jour dans un concert avec Christian Zanesi, qui travaille avec moi au GRM, et on regardait comme ça vers le bas, et on voyait qu'une mer de cheveux blancs. Et on s'est dit, on est foutu là, parce que c'est les derniers survivants qui viennent écouter Parmigiani ou Schaeffer ou je ne sais pas quoi, et quand ces gens vont mourir, on n'aura plus le public. C'est là où on a lancé une initiative forte en présence électronique qui nous a permis très rapidement de renouveler totalement notre public, d'intéresser à ces musiques un public qui normalement n'était pas en contact avec lui. Donc voilà, ça c'est la partie publique de notre activité. Les GM Tools, c'est un outil de traitement du son extrêmement simple à utiliser mais extrêmement puissant. On a fait une analyse récemment de notre clientèle et Lucasfilms aux États-Unis en a 17 par exemple, Sony en a une dizaine, ils ont acheté des licences. Ça pour montrer que c'est très utilisé dans le monde de la post-prod, le cinéma justement pour des effets spéciaux, pour créer des sons inouïs qui donnent du réalisme selon les réalisateurs aux images. L'acousmographe qui est un outil d'assistance à l'analyse ou à la description des musiques. Le principe, c'est sur un fond, c'est tout ce que vous voyez en bleu, sur un fond d'analyse physique du signal, c'est-à-dire c'est un sonagramme, c'est le temps horizontalement, verticalement c'est la fréquence, et puis l'intensité. Et donc quand vous voyez des raies parallèles, ça veut dire que c'est un son tonique. Quand vous voyez là, c'est plutôt du bruit, ou là aussi, un bruit avec quelques raies toniques. Et au-dessus de ça, on peut placer des symboles qu'on veut. Ce n'est pas une machine automatique, c'est une machine hyper manuelle. Et de manière à, après, enlever ce fond qui sert de canevas pour placer les événements. Et bien sûr, le secret de tout ça, c'est qu'il y a un bouton qui n'est pas là, qui s'appelle « Play ». Quand vous playez, donc il y a un curseur qui avance et qui vous dit où vous êtes et synchronise l'image avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Pardon. Ce qui pose aussi beaucoup de problèmes par rapport à la perception, parce que on a imaginé ça. Une fois, on a fait une expérience. On a invité 2-3 musicologues très reconnus qui travaillaient dans la musique contemporaine, instrumentale, dit vous ne joueriez pas le jeu de prendre un morceau de musique électroacoustique, l'analyser et nous présenter les résultats de votre analyse. Alors, ces grandes têtes pensantes qui avaient tout un outillage pour l'analyse des musiques écrites se sont trouvées en séance publique comme des gamins. Alors il y a un petit son qui commence là, et puis au bout de quelques instants, il y a un son beaucoup plus grand, non, qui on dirait une sorte de porte qui claque, qui va avancer, qui va se prolonger, etc. On s'est rendu compte du manque d'outils, de concepts, de formalisation dans ce que c'est l'analyse des musiques. Alors déjà, une représentation graphique, pour trompeuse qu'elle soit, parce que ça, on a... Si on faisait une représentation très travaillée d'une musique à l'image, on obtient ce qu'on appelle un dessin animé, qui peut être réaliste ou abstrait. Ou on a des exemples sur le site d'analyse où il y a des tas de choses qui bougent en fonction de la musique. On a animé visuellement le sonore. Et comme il y a une synchronisation forte, alors l'esprit se laisse aller, se laisse prendre. Ici, c'est similaire. Il y a le curseur qui avance et vous dit, voilà, donc quand le curseur est en train d'arriver ici, vous ne savez pas ce que c'est ce signal. Mais vous vous préparez à quelque chose. Donc vous cassez, disons, la magie de l'acousmatique, qui est justement d'être non prévenu de ce qui va arriver. Donc, mais bon, quand on doit parler d'une musique, avoir déjà même un support comme celui-là est extrêmement efficace pour dire, voilà, ici il y a cette section, il y a cette section, il y a cette section, c'est ce que je fais ici, il y a trois sections avec une fin. Et donc, je donne à chaque section une caractéristique visuel par rapport à ce qui est entendu là. Bien, tout ça était encore de l'introduction. Je suis désolé, je vais rentrer maintenant dans le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est « Mais monsieur, que faites-vous de vos musiques ? Et comment vous les gardez ? Est-ce que vous les gardez déjà ? Ou est-ce que ce que vous faites est de l'ordre de l'éphémère ? Qui est fait pour aujourd'hui, et puis après le concert, on efface la bande. Ça peut exister. Il y a beaucoup d'art éphémère. Dans notre cas, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on gardait 1800 heures depuis 1948, ça veut dire qu'on n'est pas tellement pour l'éphémérité. On est plutôt pour la conservation. Et nous trouvons nous-mêmes, au sein d'une institution de conservation patrimoniale audiovisuelle, il est tout à fait normal que nous nous occupions de ce que c'est la conservation des œuvres. Mais enfin, ça veut dire quoi conserver ? Est-ce qu'on conserve ça de la même manière qu'on conserve, c'est pas la musique traditionnellement, qu'on conserve les livres, qu'on conserve les œuvres d'art, ça vous concerne. Et voilà. Donc, je commence par ici, une sorte de petite histoire très condensée de la musique depuis le début des temps. Donc, le problématique, c'est la transmission musicale. Je fais une musique, comment je la transmets à quelqu'un ? Le grand gagnant dans cette bataille de la transmission, c'est la tradition orale. C'est-à-dire que c'est la première forme qu'on a connue de transmission. Je répète, je répète, je répète. L'autre entend, l'autre entend, l'autre entend. Et au bout d'un certain temps, il a gardé l'information ou une partie de l'information, soit comme elle était au départ, soit modifiée. Peu importe, elle est transmise. Parce que quand on dit que la tradition orale déforme la transmission, il faudrait se mettre d'accord d'abord sur qu'est-ce qu'on veut transmettre. Où est l'information qu'on veut transmettre ? Et on va revenir sur ce point-là. Donc ça, depuis la nuit des temps, à un certain moment, et bien avant le XIIIe siècle, c'est un autre exemple que je vais donner et sur lequel on va revenir, les Grecs anciens avaient des instruments et de l'écriture. On ne sait plus comment lire. On a perdu le code qui permet de déchiffrer ces partitions. Donc on a des choses qu'on imagine, c'est des partitions, mais on ne sait pas comment créer le lien entre l'instruction que décrit la partition et l'instrument qui est censé jouer cette partition. Donc on a perdu ce lien-là. En tout cas, à partir de 600, à partir de la réglementation de la pratique musicale à travers le chant grégorien s'appelle grégorien parce qu'un pape qui s'appelait Grégoire a dit « Attention, il faut faire comme ça et pas comme ça. » Et le « pas comme ça » voulait dire « Ne faites rien qui puisse ressembler à des musiques, par exemple, orientales. » Ne faites pas des secondes majeures parce que ça rappelle la musique arabe, etc., etc. Donc on a fixé un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire, on a plutôt poussé certaines, et ça a créé une sorte de règle pour le chant grégorien. Et comme le chant grégorien était un chant, donc il était basé sur des textes. Et donc il était tout à fait normal, même en abîmant le texte, parce qu'il n'y avait pas de reproduction, d'inscrire des signes sur le texte. Ces signes se sont développés, sont devenus plus complexes et se sont structurés aussi. ont commencé à avoir une signification élargie. Ce n'est pas seulement des signes pour moi, c'est des signes pour tout le monde. Et on a donné à ces signes-là le nom de neum. Et le neum est un signe, par exemple, il y en a un qui est comme ça, une sorte de... qui est un signe qui décrit que le son doit monter, doit repasser par la note, redescendre et revenir à la note. Donc le signe a une certaine synesthésie, disons, avec ce que doit faire le chanteur. C'était ça l'idée de neum, c'était un aide-mémoire pour lui rappeler ce qui se passe. Ces aides-mémoires se développent et commencent à apparaître des choses plus évoluées, qui vont aboutir à ce que vous connaissez, c'est la partition. Mais la partition n'a pas été inventée tout de suite avec cinq lignes. Il y avait une ligne donc en dessous, sur la ligne en dessous, et puis deux lignes, trois, quatre, cinq. On s'est arrêté à cinq, c'est à peu près ce que l'œil peut bien suivre. Et se développe l'écriture musicale. Bien. Donc voilà un nouveau mode de transmission. J'écris do ré mi, vous allez lire do ré mi. On est tous d'accord qu'il faut jouer do ré mi. Néanmoins, le fait de pouvoir écrire les notes, comme le fait tout à fait parallèle de pouvoir écrire un texte, donne à la dimension créative toute une autre dimension, perspective, pardon. Puisque je peux non seulement voir la succession de sons qui vont faire la musique, mais je peux imaginer plusieurs successions en parallèle, ce qu'on appelle la polyphonie. La polyphonie, jusqu'à cette époque-là, était très rudimentaire. Un même son chanté par quelqu'un, ou par deux sons chantés par deux personnes, et une troisième personne qui faisait au-dessus la mélodie plus ou moins complexe. Et donc, je peux imaginer que j'ai quatre chanteurs, et chaque chanteur chante des choses totalement différentes. Mais j'ai un élément visuel qui me permet de structurer. Ah tiens, pendant que celui-là fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça. C'est le développement de la complexité, c'est le développement de l'abstraction. Le compositeur peut écouter la musique sans l'entendre, puisque c'est comme la lecture. Je lisais il n'y a pas très longtemps que jusqu'à une époque pas très ancienne, la lecture était labiale. Les gens lisaient, on leur apprenait à lire en bougeant les lèvres, parce que sinon on avait l'impression qu'on ne comprenait pas ce qu'il y avait écrit. Et à un certain moment, on commence à développer une lecture tout à fait, on est comme ça, on fait aucun, il n'y a aucun signe extérieur d'activité, et on est capable de lire pendant des heures comme ça. Si on se gratte, mais ça n'a rien à voir avec la lecture. Alors, ça a introduit un nouveau schéma de transmission, dans lequel, quand la partition vraiment s'est établie comme une sorte d'outil universel de transmission des instructions, disons que ce n'est pas que je n'ai plus à m'en faire, mais je suis sûr que ce que j'ai écrit, c'est ce que l'autre va lire. C'est-à-dire que j'ai établi un code. Quand j'écris une lettre, je me base sur le principe que la personne qui lit la lettre va comprendre, non seulement est capable de lire, mais comprendre les mots. Et donc, je ne m'occupe pas du papier et du crayon, je m'occupe du contenu. La même chose, la partition, on va voir que le papier et le crayon en musique est très différent. En 1887, apparaît un autre événement majeur, l'enregistrement du son. C'est un phénomène qui a vraiment occupé notre société contemporaine, c'est l'enregistrement. On enregistre tout le temps, tout. Hein? On ne sait pas pourquoi, mais on l'enregistre. Alors, figurez-vous que jusqu'à 1887, si on voulait écouter une musique, il fallait deux conditions. Être là au bon moment. C'est-à-dire, vous pouvez être là, mais le musicien n'était pas là. Et vous pouvez être au bon moment, mais ailleurs. Donc la musique n'existait que sous ces conditions. Et on a commencé d'abord à casser la logique géographique avec la transmission. Donc, la musique se passe ici, ou l'événement se passe ici, mais moi, je ne dois pas être nécessairement à proximité, je peux être loin, parce que l'information va être transmise. Et puis, un grand jour, on casse aussi cette dépendance temporelle, je peux l'écouter ailleurs, à un autre moment. Un jour plus tard, 10 jours plus tard, 10 ans plus tard, 100 ans plus tard. C'est vraiment une révolution. Et en sachant que, comme beaucoup de révolutions, on n'a jamais vraiment voulu la chose comme ça. Quand Bell, B-E-2-L, a inventé l'enregistrement, lui, ce qu'il avait en tête, c'était de faire un dictaphone, hein, pas autre chose. C'était pour les gens occupés qui dictaient comme ça, et puis les gens transcrivaient et faisaient les lettres à partir de ça. On s'est posé beaucoup de questions, à quoi diable pouvait servir l'enregistrement ? Et une des grandes idées qui est apparue, c'est ben on pourrait utiliser l'enregistrement pour capter les derniers mots de mourants. C'est un masque funéraire, comme on faisait au 19e siècle, mais sonore. Voilà, on a enregistré ça, à condition qu'il ait fait quelque chose comme ça. Et donc, c'est un témoignage ultime. C'est ce qui reste, le dernier soupir. Et grâce au développement, d'une part, des télécommunications, le téléphone, et ensuite des médias, la radio, c'est là où ces inventions, un peu inutiles au départ, commencent à prendre tout leur poids. Et on commence à voir en quoi cette situation est en train de changer la perception et la représentation du monde. De la même manière que notre usage actuel d'Internet change notre perception et représentation du monde, et aussi nos décisions et nos actions. Pourquoi je dis ça ? La radio, quand elle apparaît, elle est surtout un outil de transmission à distance. On se rend compte au bout d'un certain temps que peu importe que ce qu'on entend se passe réellement en ce moment ou se soit passé 2 jours plus tôt, celui qui écoute n'est pas capable de faire la différence. J'entends ce que j'entends comme étant maintenant et ici. Et cette force du maintenant et ici donne justement une actualité toujours renouvelée à la radio. La radio est toujours maintenant et ici. Même si on me dit que c'est une retransmission du concert, hein, c'est maintenant et ici. Alors là où la radio devient beaucoup plus coquine, c'est quand elle commence à exploiter ce qui était le gros filon jusqu'à fin des années 50. Je me rappelle, ayant 7 ou 8 ans, pas chez moi, mais chez des gens, chez des amis, il y avait tous les jours le rendez-vous obligé du radiothéâtre. C'est-à-dire, c'était le feuilleton sonore qui, comme les séries dans la télé, étaient à la radio, et tout le monde se réunissait, c'était un grand moment de la journée. Et ces émissions étaient d'un... Ça paraît idiot de le dire ça aujourd'hui, mais d'un réalisme saisissant. Parce qu'on entendait des bruits, des cris, des coups de feu, c'était comme si on était vraiment en train d'écouter la vie telle qu'elle se passait quelque part. Et tout ça, c'était du montage le plus primaire, et même les sons qu'on croyait être ce qu'ils étaient n'étaient pas originellement ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on les produisait par des moyens détournés. Et là où la chose est allée beaucoup plus loin, c'est quand on a commencé à pervertir le dispositif dans le bon sens, c'est-à-dire de construire des situations sonores qui ne correspondaient pas forcément à une réalité possible. Vous connaissez probablement l'histoire en 1938 de la guerre des mondes de Orson Welles, où il fait une émission à partir de bouquins du même Welles, mais qui était né 50 ans plus tôt. Et c'est l'invasion de la Terre. Après, il y a eu le film il y a 7 ou 8 ans. Et il utilise des sons méconnus, pas identifiables. Et malgré le fait que tout le monde savait que c'était une émission radio dramatique, beaucoup de gens se sont laissés prendre par une sorte de panique. C'est-à-dire que la force du sonore était bien plus importante que la conscience d'assister à un phénomène externe. Et là, je ne fais aucune découverte, le cinéma a fait exactement la même chose. D'abord, il montrait la sortie des ouvriers à l'usine, je ne sais pas quoi, et puis un beau jour, c'était de la Terre à la Lune et des choses comme ça. Totalement artificiel, fait avec des moyens du bord, mais tellement réaliste pour les gens qui découvraient cet aspect-là. Mon père m'a raconté que quand il était gamin, ils allaient au cinéma et il y avait un film qui commençait et les gens commençaient à siffler et à râler parce que l'acteur du film était mort la semaine dernière dans un autre film. Et donc, ils ne trouvaient pas normal que le type réapparaisse puisqu'on l'avait tué lors du film. C'est-à-dire qu'on donnait une sorte de présence, de présent à ces actions, comme s'il s'est passé vraiment, tout en étant conscient de cette farce. Donc, voilà. Alors, tout ça évolue très lentement, et en 1948, avec des origines très fortes issues des dramatiques de radio, Schaeffer commence à expérimenter le fait d'associer des sons sans un but précis, et il décide, très bonne décision, d'imposer à ça le mot musique. Puisqu'au fond, c'était tout bête, c'était pas très différent que de jouer un piano, sauf que les sons étaient autres. Quand on met des sons ensemble et on construit quelque chose et on l'entend et on trouve une logique, on est devant un phénomène musical où les sons ne sont pas tellement pris par ce qu'ils signifient, mais par leur enchaînement. Donc, il a pris surtout conscience de cette situation tout à fait nouvelle et particulière, mais en même temps tellement ancrée dans notre perception qu'il n'a pas pu faire autrement de l'appeler musique. Mais il a introduit un problème nouveau, ce que la musique dépendait des sons. Et ce n'était pas le cas auparavant. Quand j'écrivais pour piano, je n'avais pas à m'occuper du piano. Je n'avais qu'à m'occuper que ce que j'écrivais était jouable sur un piano. Donc, on va voir comment ça se passait. Alors, j'ajoute un axe à la transmission qui est l'axe de la complexité. D'une part, la tradition orale, technologiquement, c'est hyper simple. Il faut une bouche et une oreille. Pour la musique instrumentale, il faut en principe du papier, du crayon et un système de codage qui soit commun. Mais pour les musiques, tout ce qui se développe à partir de 1948, c'est des systèmes techniques en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que le système technique n'est pas stable, il est instable. Dans la musique instrumentale, le système technique est stable. C'est ça qui a garanti la stabilité du phénomène instrumental. Voilà. Alors, si on analyse le modèle traditionnel, il y a quoi dans la musique instrumentale, la grande musique, comme on dit parfois ? Il y a d'une part l'information. L'information, c'est le mode selon lequel les sons se combinent de manière à créer une perception de type musical. C'est les notes, c'est l'écriture, c'est la technique instrumentale, tout ça. Mais ceci est indépendant du son. C'est la manière dont l'information est produite. Les instruments de musique, la pratique musicale. Dans le modèle électroacoustique, l'information, elle est dans le son, en fonction du son. L'information et le son ne sont pas séparés. Et en plus, le son dépend d'une technologie spécifique, qui, elle, comme on l'a vu, n'est pas régulière. Elle change tout le temps. Allons ailleurs pour un moment. Communication sociale de la musique et des arts de la scène en général. Le théâtre, la danse, c'est exactement la même chose. Le modèle traditionnel dit qu'il y a d'une part celui qui a la conception, l'autre qui fait la médiation et l'autre qui fait la réception. Donc le compositeur, l'interprète, l'auditeur. Ce diagramme vient de la théorie de la communication qui dit que pour que cette communication fonctionne, il faut quelque chose de commun entre le compositeur et l'interprète et entre l'interprète et l'auditeur. Il faut qu'on partage quelque chose. Maintenant, je parle, je suis, disons, le concepteur et le médiateur, et vous êtes le récepteur, mais on partage la langue, on partage le sens, on partage même une certaine connaissance, on sait qui est Schaeffer, par exemple. On pourrait ne pas savoir qui est Schaeffer. On a une expérience liée à ça. Donc, tout ce partage, un code, et un code non seulement musical, mais un code sonore. Figurez-vous que si je vous dis piano, je ne dois pas vous montrer une image d'un piano, et moins encore vous faire entendre un son de piano. Vous avez suffisamment d'expérience perceptive pour vous représenter tout de suite le son du piano. Que ce soit bon ou mauvaise représentation, c'est votre problème. Quand je dis le premier son de telle œuvre d'un tel de Schaeffer, alors là, même je vous fais entendre un début de musique et des meilleurs après, je dis c'était comment le premier son, vous avez totalement oublié le son. Peut-être vous vous rappelez de quelque chose, d'une sensation, mais pas le son en tant que tel, vous n'avez pas d'image faite. Et donc, je vais dire avec ça, supposons que maintenant je suis en train de jouer du piano, vous ne vous interrogez pas sur qu'est-ce que c'est ce son que j'entends et que je n'arrive pas à identifier. Tout ça est très bien intégré. Et si pendant que je joue, vous bougez et vous faites du bruit avec vos sièges, vous ne dites pas, tiens, quelle musique étrange qui intègre des sons de piano et des sons de sièges. Vous dites, l'un c'est la musique, l'autre c'est les bruits. Donc vous voyez, on a un système hyper bien construit, ciblé, et un jeu d'échange d'informations auquel tout le monde s'y prête. Le théâtre, c'est pareil. La danse, c'est pareil. Dans la musique acousmatique, déjà, le compositeur est son propre interprète. Je veux dire avec ça que le compositeur ne va pas déléguer le passage au sonore à quelqu'un d'autre, il va le faire lui-même. Il va inventer ses sons et il va les mettre ensemble. Et puis, vous, auditeurs, débrouillez-vous. Hein. C'est votre problème. Et il n'y a pas de code explicite commun. Et le matériel sonore est inattendu, comme je viens de le dire. Ce son-là, c'était quoi la musique qu'il nous a fait écouter la semaine dernière? Complètement oublié. Et on est devant ce qu'on appelle une écoute de typomorphologique. C'est-à-dire, et c'est la base de l'acousmatique, j'essaye de comprendre, non, pas de comprendre, c'est un mauvais mot, de donner une origine possible à ce que j'entends, ce quoi ce son que j'entends, un, et deuxièmement, que fait ce son que j'entends? Je suis devant une double qui est de toute manière un concept fondamental de la perception. Pour interpréter un signal, il faut deux informations. C'est quoi et ça fait quoi? Je dis chien, voilà, ça crée une sorte d'image instantanée du chien. Je dis chien qui aboie, c'est l'image instantanée plus l'action. Donc, je suis en permanence dans cette situation d'écoute. Je ne peux pas entendre un son sans m'interroger sur d'où il vient. Ce n'est pas une interrogation philosophique, ce n'est même pas une interrogation consciente, c'est un instinct de survie. Il faut que j'interprète les sons qui m'arrivent, sinon le truc va me tomber sur la tête, ou la voiture va m'écraser, ou le chien va me mordre. Donc on a cette capacité de toujours associer à une information sonore une source possible. Un peu moins dans la musique instrumentale. Parce que piano, ça va faire piano tout le temps. Et d'ailleurs, le son de piano, on ne le retrouve que dans le piano. Quand je claque la porte, ça ne fait pas piano, ça ne fait pas flûte. Et donc, je peux dire, ok, pendant que j'écoute la musique, ce son-là, je le connais, il est bien référencé, donc je n'ai pas à m'occuper de lui. Je ne dois pas m'interroger en permanence, c'est quoi ce son bizarre que je suis en train d'entendre. Ça s'appelle piano, basta. Et je peux même l'entendre sans le voir. Parce qu'à chaque fois que j'entends, je reconnaîtrai piano, je suis devant la photo du piano et je ne peux pas m'en séparer. Par contre, quand je suis dans des musiques comme ça, je dis, mais c'est quoi ce son? C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? Ah, il se relie avec le précédent, ah, il va là, etc. Donc c'est un autre type d'écoute. Je ne dis pas que c'est plus difficile, je ne dis pas que c'est plus complexe, je dis que c'est un autre type d'écoute. Beaucoup plus interrogative par rapport, et beaucoup plus active aussi par rapport à l'interprétation. Alors, il y a un modèle intermédiaire qui est les musiques mixtes, qui sont la mixité est bien trouvée ici, c'est un mélange entre les deux. Je vais d'une part concevoir des instructions pour un interprète, et d'autre part, je vais aussi fabriquer des sons qui vont accompagner le jeu des interprètes, où je vais créer des sons à partir du son des interprètes. Il faudrait en fait une flèche dans les deux sens. Il y a une tendance encore qui va plus loin, c'est celle-là. Ça s'appelle de l'interaction. C'est-à-dire que le résultat dépend de l'action du récepteur. Le récepteur n'est plus neutre, il va agir. Tout ça, c'est le domaine des jeux. Le jeu est un scénario, est une action, est un film qui n'a besoin que de l'intervention du récepteur pour donner du sens à celui qui le réceptionne ou qui joue, en d'autres termes. Donc c'est là, on a fusionné tout ça. Et donc c'est à tous les trois d'interagir d'une manière active pour que la chose existe. Bon, ça va jusqu'à là? Jean-Michel, tu me dis quand il faut faire la pause? Dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Comme ça vous vous mettez à attendre. Alors là, je vais changer de dimension. Déjà, je suis dans la sociologie du fait musical, même pas de la musique, du fait musical. Alors, il se fait que derrière toutes ces belles paroles, tous ces beaux diagrammes, il y a ce qu'on appelle le processus d'archivage. Peut-être le mot archivage est un mauvais mot dans ce contexte. Mais on va... Comme il est tellement évident, je vais le garder. Parce que maintenant, on va analyser ça du point de vue de comment on va sauvegarder tout ça. Et je vais être tout à fait clair par rapport à ce que j'entends par sauvegarde. Quand Lina garde une copie du JT de hier soir sur France 2, Lina garde un témoignage de ce qui fut. Et ce qui fut est associé à un moment temporel. Et je vais revenir à ce JT, demain, dans 10 ans, etc., en ayant ça en tête. C'est un témoignage de tel jour. Je gardais ce témoignage. Mon problème, c'est de le garder en bon état, hein, comme un livre. Il ne faut pas le garder, il ne faut pas qu'il se casse en morceaux. Parce que sinon, je ne pourrais plus regarder ça. Ce n'est pas mon problème musical. Hein. Mon problème musical, c'est de garder la musique, pas le témoignage de la musique. Ce n'est pas de garder l'enregistrement du concert. C'est de garder tout ce qui me permet de rejouer cette œuvre, cette installation, cette performance, tout ce que vous voudrez mettre derrière œuvre, dans un futur dont je n'ai pas de limite temporelle. Si mon ambition, c'est celle-là. Je peux, encore une fois, être dans l'éphémère. On va revenir aussi sur l'éphémère. Mais dès que j'ai... en général, les compositeurs, j'en ai connu très peu qui étaient éphémères, veulent que leurs œuvres soient rejouées. Alors, quand c'est acousmatique, c'est plutôt simple. c'est un média, on le traite comme un média, avec quelques précautions. Quand c'est un processus plus complexe, il faut que je fasse attention, il faut que je détermine. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut garder ? Pas seulement l'enregistrement de l'œuvre, il faut que je garde d'autres choses qui me permettent, dans un instant T, demain ou dans 100 ans, de rejouer cette œuvre. C'est là où on va se tourner un moment à la méthode traditionnelle. Donc, il faut conserver d'une part les partitions et les schémas. Ça, c'est une partie du problème. Le son et les modes de production sont conservés par les interprètes et les constructions d'instruments. Si on conserve tout ça, on a conservé la musique. Il y a un élément intermédiaire, on va revenir après. Modèle électroacoustique. L'information est fusionnée avec le son. Des systèmes innovants de production sonore peuvent être utilisés, qu'il faut maintenir et conserver. Beaucoup d'autres éléments interviennent dans l'acte musical. Il faut conserver les objets, leurs fonctions et leurs relations. Donc, question, j'ai fait une œuvre, j'aurais jamais fait ça, mais bon, imaginons, en 1980 sur un Atari qui est une œuvre de composition automatique, c'est-à-dire qui va générer des sons. Je veux préserver l'œuvre. Dois-je garder l'Atari éternellement et m'assurer tous les 10 jours qu'il marche ou acheter 240 Atari que je trouverai dans eBay pour si jamais l'un me lâche, l'autre puisse survivre. C'est une question qu'on se pose. Et c'est une question qui nous vient de la méthode traditionnelle. Je garde l'instrument. D'ailleurs, je le décortique, je le reconstruis. Les luthiers ne font que transmettre l'instrument. Au-delà de le construire, ils transmettent un savoir-faire et transmettent l'objet lui-même à travers les siècles. Hein, parce que le violon de Crémone, c'est 1700. Stradivarius. Donc, l'idée initiale, c'est de dire, ben, je n'ai qu'à faire attention et mettre l'Atari dans un endroit fermé. Mais même comme ça, le meilleur Atari du monde meurt de sa mort naturelle. Donc, il faut que je garde autre chose. Donc, la grande difficulté, c'est formaliser cette autre chose. Il y a un compositeur, un grand compositeur du XXe qui s'appelait Karlheinz Stockhausen, qui a joué à ça à mort. Il disait, pour cette œuvre, il faut que le chef soit sur une estrade de 80 par 95 sur 22 cm de haut, peint en telle couleur. Vous pouvez louer cette estrade chez telle maison, etc. Mais attention, s'il n'y a pas l'estrade, je ne vous garantis pas le résultat de l'œuvre. Toutes les grandes structures s'engouffraient dans ces dépenses inutiles, mais qui ne faisaient autre chose que valoriser le travail de Stockhausen. Parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait 50 choses qu'il fallait obtenir avant de pouvoir jouer l'œuvre. Pour donner de l'importance, une surdimensionnelle importance de l'œuvre. Alors, le problème n'est pas un problème de conservation. On est d'être capable de rejouer une œuvre musicale. La sauvegarde doit être orientée vers la recréation. Recréer une œuvre. Quelles sont les implications d'être capable de rejouer une œuvre musicale dans le futur, pour complexe qu'elle soit? Actuellement, une grande partie des œuvres contemporaines ne peut pas être rejouée. On a perdu des œuvres, des quantités d'œuvres. Quand une œuvre est rejouée, la connaissance est transmise de manière orale, basée sur la connaissance des personnes. Par exemple, il y a un tel technicien qui a aidé à faire l'œuvre, et on a intérêt qu'il ait gardé quelques notes et qu'il se souvienne comment il a fait pour obtenir le résultat qu'on a sur l'enregistrement. Parce que le compositeur, c'est sûr qu'il ne se rappelle pas. Il faut être capable de comprendre la musique à travers le temps, avec la capacité de contextualiser les œuvres musicales. Il faut une génétique des œuvres. Comment elles étaient conçues, quels sont les éléments, à quoi elles servent. Et une interprétation musicologique dans le processus de préservation. La musique préservée est associée avec une tradition d'interprétation qui maintient l'œuvre vivante. Ça, c'est encore plus compliqué, parce que même si je garde tout ce qu'il faut, il faut encore que je sache le faire marcher. Que je comprenne comment marchait l'Atari, au-delà de comprendre ce qu'il faisait. Donc, il y a ce qu'on appelle la connaissance qui est liée à tout acte de création, qui est fondamentale pour ce type de choses. Et on va arrêter là, pendant 5 minutes, pour prendre un café et revenir après. C'est le moment de poser des questions. Oui.
Vous qui enregistrez des pétaloctets d'informations sur les Atari d'aujourd'hui. Les Atari d'aujourd'hui sont des disques durs, si j'ai bien compris.
Oui, mais.
Ils ont aussi une durée de vie limitée.
Le disque dur est un support. Par exemple, je vais t'expliquer comment on fait aujourd'hui. On n'a gardé aucun livre original écrit par Socrate. Mais on a gardé l'information. Pourquoi ? Parce qu'on a recopié. Avec des erreurs, des interprétations, etc. etc. C'est-à-dire, il y a toute une branche qui est la génétique qui consiste à tracer les différentes traductions pour voir qu'est-ce qui a changé de l'une à l'autre pour essayer de trouver quelle est la meilleure version. Donc, ce qui est important, ce n'était pas le papier sur lequel écrivait Aristote, mais ce qu'il écrivait. Sauf qu'il faut, à un certain moment, et c'est là où on a un changement majeur, faire attention à transférer cette information sur un autre papier, sur un autre papier, sur un autre papier. Et ça, c'est quelque chose pour lequel nous ne sommes pas vraiment préparés. Notre société est une société de conservation passive. Si je fais attention, ce livre, je veux le garder longtemps. Il ne faut pas que je l'abîme. N'en parlons pas des objets d'art. Il faut que je les mette dans un endroit avec température, humidité, tout ça. Si je fais attention, de temps en temps, j'enlève la poussière et l'objet est là, comme il était principe le premier jour. Mais nous savons aussi que rien ne dure. Nous savons aussi que les plus grandes œuvres d'art qui nous viennent de l'Antiquité ont été restaurées des quantités de fois avec des atrocités et puis de remises à l'original. Mais donc on est dans une société de sauvegarde active. Il faut faire en permanence quelque chose. Les 2,5 pétaoctets de l'INA, tous les 5 ans, plaf, 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 on les copie. Ça prend 6 mois. Sur de nouveaux supports, sur de nouvelles cassettes, sur de nouveaux disques durs, qui vont durer 5 ans, ou peut-être un jour, il y en aura qui dureront plus.
C'est 5 ans.
C'est 5 ans. Par exemple, une information qui va faire que vous allez partir en courant, très inquiet de ce que je vais vous dire, la durée moyenne d'un CD enregistrable, CDR, c'est 10 ans. Aucune garantie au-delà de 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, tous vos CD s'effacent. Il y en a qui vont durer plus longtemps. Mais il se peut qu'avant 10 ans, vous commenciez à avoir des problèmes. En tout cas, ce n'est pas un support qu'on dit de préservation. Il n'a jamais été conçu pour durer 50 ans. Donc, si vous avez mis toutes vos photos sur un CD ou un DVD, au bout d'un certain temps, il faut faire quelque chose. Et là, je ne parle pas des formats qui deviennent obsolètes, tout ça. Je parle de l'information brute, les photos, les JPEG que j'ai mis sur un DVD. Avant 10 ans, il faut faire quelque chose. Pour les transférer, ou le disque dur. Même s'il marche bien aujourd'hui, rien ne me garantit qu'il marche bien demain. Donc il y a beaucoup de stratégies qu'on dit de sauvegarde, mais il faut les mettre en œuvre. Alors, pour le moment, toutes ces stratégies sont basées sur plutôt l'effort individuel. Et ce sur quoi on travaille, c'est comment on peut imaginer des stratégies plutôt automatisées. Voilà. Pas pour t'inquiéter, mais...
Non, je suis stupide, c'est-à-dire l'intérêt de... Qu'on conserve la mémoire enregistrée d'une pièce, d'accord. Mais l'intérêt, effectivement, des moyens, c'est important de la rejouer absolument.
Oui, c'est les mêmes moyens que pour jouer une symphonie de Beethoven. Ça coûte la peau des fesses. Si tu penses à toute la technologie qu'il faut mettre en œuvre, le contexte, le lieu, le travail, l'apprentissage, tout ça. C'est pas moins. Et je pense que c'est tout à fait logique de se poser cette question de la durabilité de ce qu'on produit. Non, je parle de l'intérêt culturel. Non, il y a un intérêt évident. Sinon, parce que une des situations qui se dessine ces dernières années, c'est qu'on est en train de vivre dans une société avec très peu de mémoire. La mémoire s'efface. Alors, il y a des fous qui essaient de capturer la mémoire, c'est-à-dire de garder une trace de cette mémoire. Et il y a des gens qui, je me mets dans ce cas-là, des gens qui faisant des créations, que voulant quand même les faire durer. Alors, il faut qu'on prenne nos précautions pour la faire durer. Mais comme il y a toujours une volonté de simplification, on ne veut pas construire une usine à sauvegarder des musiques, mais on veut que le processus de sauvegarde soit un processus simple et facile à mettre en œuvre. C'est ça notre objectif. Pour le moment, il est hyper lourd, hyper compliqué et hyper cher. Voilà.